Chapitre 8e. En attendant la nomination espérée, mais non formellement promise, et qui pouvait traîner, il fallut se restreindre. Sur les 42 francs qui composaient leur budget mensuel avant la perte de la leçon de la lingère, 24 francs manquaient. Il ne leur restait donc que 18 que gagnait la grand-mère. Ainsi se trouvait réalisée la supposition de la tante Toucha. C'était la grand-mère qui allait travailler pour faire vivre la petite fille. Elle voulut travailler elle-même et gagner quelque chose si peu que ce fût. Il n'y avait guère qu'un travail possible pour une femme dans sa situation, celle de l'aiguille. Mais si elle cousait, si elle brodait, elle ne savait réellement ni coudre, ni broder, c'est-à-dire qu'il lui manquait l'habileté, la régularité, la rapidité que donne seul le métier en toute chose, qu'il s'agisse d'un torchon à ourler ou d'un tableau à peindre. Écrire, il lui fallut s'adresser à Griolet, et elle eût mieux aimé mourir de faim, plutôt que de supporter le sourire avec lequel il accueillerait sa demande, qui, venant d'elle, après ce qui s'était passé, serait un acquiescement. Tricoter, ce fut ce qu'elle fit, ayant l'avantage de pouvoir prendre ce travail sans être obligée de le demander, puisqu'elle n'avait tout simplement qu'à aider sa grand-mère. Mais, dans ses doigts agiles et lisses, l'ouvrage ne fondit pas, comme dans les doigts ankylosés et rugueux de la vieille femme. Au lieu de gagner 12 ou 13 sous par jour, elle eut bien du mal à en gagner 6 ou 7. Cependant, elle n'abandonna pas ce travail, n'en ayant pas de meilleur pour le remplacer. Mieux valait encore cela que rien. Ces 7 sous ajoutés aux 13 sous de la grand-mère, cela leur donnait toujours 20 sous par jour, et jusqu'à ce moment elles en avaient dépensé 32 à 35. Ce fut ces 12 ou 15 sous qu'il fallut économiser. Ce qu'elles ne pouvaient prendre sur leur déjeuner et leur dîner, elles le prirent sur le chauffage et l'éclairage, bien que la saison fût rude et que le soir elles eussent besoin de prolonger la veille aussi tard que possible, en cette saison où la nuit se faisait avant 5 heures. Heureusement, de ce côté, le hasard leur vint en aide dans leur détresse. En choisissant leur logement dans ce faubourg, Hélène avait obéi à 2 considérations. Leur loyer coûterait moins cher que dans la ville. Ils étaient presque à la campagne. Sa grand-mère, qui avait toujours vécu aux champs, trouvait là de l'air, de la lumière. Autour d'elle s'étendaient les grasses prairies qu'arrosent Landon. De leurs fenêtres, qui donnaient sur la grande route, elle voyait les arbres qui marquent le circuit de la rivière, et dans leur cour, toute la journée, on entendait le caquetage des poules, le chant des coqs et le roucoulement des pigeons. Cela était moins triste pour la vieille paysanne, qui ne sortait plus d'un intérieur entre 4 murs. Cependant, c'était bien le faubourg d'une ville et non la pleine campagne. Ainsi, juste en face de leurs fenêtres et de l'autre côté de la route, assez étroite en cet endroit, se trouvait la grille d'entrée d'une fabrique, dans laquelle le travail se continuait jour et nuit, de sorte que pour éclairer le va-et-vient des ouvriers, un bec de gaz brûlait du soir au matin au-dessus de cette entrée. Ce fut ce bec de gaz qui leur permit de faire des économies sur leur éclairage. Tous les soirs, après leur dîner, elles enlevaient les rideaux de la fenêtre de leur chambre et s'installant auprès des vitres, le plus près possible pour ne rien perdre de la clarté du gaz, qui traversait la route et arrivait jusqu'à elles, elles restaient là jusqu'à 11 heures du soir, travaillant courageusement à leur tricot. Elles auraient eu moins froid au milieu de la chambre quand il gelait fort au dehors, mais au milieu de la chambre elle n'aurait plus assez de lumière. Hélène surtout, qui manquant de l'expérience et de l'habileté de sa grand-mère, avait besoin d'y voir un peu pour se reconnaître dans son travail. Souvent, pendant des heures, on n'entendait que le faible cliquetis des aiguilles quand elles se choquaient. Puis, tout à coup, elles échangeaient quelques paroles, mais qui n'étaient jamais des plaintes, ni sur leur situation, ni sur leur souffrance, la fatigue, le froid, les privations. Il semblait qu'il y avait entre elles un accord tacite à ce sujet, et qu'elle cherchait à s'encourager, non à se désespérer. Mais malgré elle, il leur échappait quelquefois un mot qui en disait long sur ce que l'une ou l'autre éprouvait. Un soir qu'il gelait terriblement et que sur la route sonore comme un plancher on entendait claquer les sabots des passants, tandis que les vitres couvertes de givre craquaient sous la bise du nord, elle travaillait sans parler. « C'est tout de même heureux, dit la grand-mère, que notre fenêtre ferme si bien. » Ce n'était pas une plainte, mais quelle parole eût été un aveu plus douloureux du froid qu'éprouvait la vieille femme, à moitié glacée sur sa chaise où elle était assise depuis 3 heures, ne faisant pas d'autre mouvement que de remuer les doigts. Hélène, qui ne souffrait pas moins que sa grand-mère du froid, et qui même en souffrait peut-être davantage, car elle n'avait point été habituée à la vie en plein air, mais qui malgré tout ne voulait pas faire du feu, ne put pas résister à ce cri. « Si bien qu'elle ferme, dit-elle, il fait vraiment trop froid. Aussi nous allumerons du feu demain. Je ne peux plus remuer les doigts. Moi, c'est mes jambes que je ne sens plus. Pourquoi ne le disiez-vous pas, grand-maman? Ah, si on se plaignait. Demain, j'achèterai du charbon. Et où prendras-tu l'argent? Sur notre capitale. C'est bon de faire des économies, mais pas jusqu'à nous laisser mourir. Après tout, n'ayant pas froid, nous travaillerons plus vite. Les doigts seront plus souples. » Il dura longtemps ce rude hiver, et ce ne fut pas seulement pour acheter du charbon qu'il fallut prendre sur le capital. Il le fallut aussi pour payer la nourriture qui augmenta de prix, comme cela arrive toujours quand la saison est rigoureuse. Chaque semaine, ce pauvre petit capital de 250 francs, qui était leur suprême ressource, se trouva diminué. Il ne fut plus que de 245, de 230, de 200. En le voyant ainsi fondre, Hélène, pour ne pas désespérer, se disait que sans doute sa nomination allait enfin arriver, qu'elle ne pouvait pas se faire longtemps attendre, maintenant. Mais c'était des lèvres qu'elle se disait, sans conviction et sans foi, pourquoi pas? Et si elle n'arrivait pas? Que ferait-elle quand il ne resterait plus d'argent? Sa grand-mère pourrait-elle supporter longtemps cette vie de privation et de misère? Était-il sage de les lui imposer? Quand son père avait voulu prendre sa mère chez lui, il espérait lui assurer une vie heureuse, l'affection, la tranquillité et le bien-être. Elle-même, quand elle avait repoussé les propositions de la tante Toucha, elle avait cru que si elle ne pouvait pas réaliser les projets de son père, elle pourrait au moins donner à sa grand-mère une certaine tranquillité et le repos. Mais voilà qu'au lieu de cette tranquillité et de ce repos, la pauvre vieille femme ne trouvait qu'un travail acharné et la misère. Dans ces conditions, devait-elle persister, et le mieux n'était-il pas de revenir à la tante Toucha? Quelle terrible responsabilité pour Hélène si sa grand-mère devenait malade, si elle mourait, ne l'aurait-elle pas tuée? Sans doute il était pénible de subir cette humiliation. Sans doute ce n'était point une vie de tranquillité et de repos qu'on trouvait sous la direction de la tante, mais dans des circonstances pareilles, ce n'était point une question de dignité ni d'humiliation qui devait peser sur leur résolution. Et quand elles étaient sous le coup de la misère la plus affreuse, ce n'était point de savoir si sa grand-mère allait jouir de la tranquillité et du repos qu'elle devait se préoccuper. Après avoir longtemps hésité, Hélène se décida à faire cette proposition de rentrer chez la tante Toucha à sa grand-mère. Mais celle-ci refusa. « Viendrais-tu avec moi, ma chère fille ?»« Non, c'est impossible. Vous savez bien que ma tante nous a dit qu'elle ne pouvait pas me recevoir. »« Eh bien, je n'irai pas seule. » Si je ne gagnais rien, si j'étais à charge, j'irais quand même peut-être, mais puisque le bon Dieu permet que je gagne quelque chose, plus que moi. Justement, il n'y a pas de raison pour que je te quitte, puisque mon départ ne rendrait pas ta situation meilleure. Est-ce que tu n'es pas d'avis qu'on est moins malheureux à souffrir quand on est deux que quand on est seul? Et tu serais seule, ma pauvre fille. Et puis ton père a voulu que nous vivions ensemble. Et il me semble que ce serait un péché d'avoir fait ce qu'il voulait quand je devais m'en trouver bien. Et de ne plus vouloir le faire quand je m'en trouve mal. Nous serions restées ensemble heureuses. Nous resterons ensemble malheureuses. Ça ne durera pas toujours. Au moins, cela dura-t-il longtemps, et le capital continua à diminuer. La belle saison, cependant, en arrivant, améliora leur position désespérée. Elles n'eurent plus besoin de feu. Le prix des légumes baissa. En se levant avec le jour, elles purent travailler davantage et avec moins de fatigue. Enfin, l'influence réconfortante du soleil les releva. L'avenir leur parut moins noir. Elles gagnèrent ainsi le mois d'avril, et alors leur espérance vivace, que ça ne durerait pas toujours, se trouva enfin réalisée.